Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 16 juillet 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, la question que je te pose à tous les semaines, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien, je pense pour moi, la nouvelle financière la plus significative de la dernière semaine, c'était le chiffre d'emplois au Canada. 83 000 nouveaux emplois ont été créés au Canada. On s'attendait là, à presque rien de création d'emplois. On en a 80 000 nouveaux. On va quand même mettre ça dans le contexte. Là, de ça, il y en a 70 000, c'est des emplois à temps partiel. Donc, en termes de qualité d'emploi, c'est peut-être un peu léger, mais le nombre est quand même assez impressionnant. Le taux de chômage a baissé à 6,9%. Donc, ça a quand même un impact sur les attentes de baisse de taux. Il n'y a aucune chance que la Banque du Canada va baisser les taux à la prochaine réunion, là, du moins, à moins qu'un renversement majeur arrive. Là, avec un chiffre comme celui-là, la banque devrait rester sur pause probablement. Donc, on repousse à plus tard peut-être d'éventuelles baisses de taux. Il n'y a pas de signe, par contre, que les taux vont remonter. Là, t'sais, donc, il faut quand même relativiser les choses. Même si on n'a pas les baisses qu'on anticipait, on n'a certainement pas de hausse de taux non plus dans le collimateur. Donc, au niveau des marchés boursiers, ben, le TSX est en hausse de 0,6% cette semaine. On est à presque 10% de rendement année à jour du côté du TSX. Le S&P 500 en hausse de 0,3. C'est le Nasdaq avec les titres technologiques en tête qui est en hausse de 1,3% depuis la dernière semaine. Hier, des titres comme Nvidia, Microsoft ont atteint de nouveaux sommets historiques. On sait que ces deux géants des technologies, donc dans l'indice Nasdaq, sont très importants. Autre nouvelle aussi qui a piqué ma curiosité hier, la compagnie Brookfield Renewable, donc une entreprise là, qui produit de l'énergie renouvelable un peu partout au monde, a signé une entente avec Google pour fournir à Google, ou à Alphabet plutôt, des 3000 mégawatts sur une durée de 20 ans. Donc, tu sais, peu importe c'est qui le président aux États-Unis, on se rend compte que l'appétit pour l'énergie demeure, les centres de données pour l'intelligence artificielle consomment beaucoup d'énergie et les entreprises préfèrent être carboneutres et se tourner vers des entreprises d'énergie renouvelable. Fait que ça a encore continué là, d'avoir un effet positif sur tout le secteur parce que c'est quand même vu d'un bon œil là, de voir des entreprises comme celle-là. On sait que Brookfield Renewable avait aussi signé une entente similaire avec Microsoft il y a une couple d'années. Donc, on verra si ça va inciter vers d'autres à se tourner vers ça. On rentre dans la saison des résultats financiers aux États-Unis, donc on verra qu'est-ce que ça va donner pour les marchés. Ça peut des fois être bénéfique ou légèrement négatif, ça dépend, mais ça va certainement faire bouger les marchés dans les prochaines semaines. Alors, c'est définitivement à surveiller.
Ben merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un changement majeur dans le droit familial québécois. Probablement que les gens sont déjà au courant à ce stade-ci. C'est l'union parentale. On en avait parlé l'année passée parce que ça s'en venait. Maintenant, c'est ici. Depuis le 30 juin 2025, une nouvelle loi est entrée en vigueur pour mieux protéger les familles, en particulier les conjoints de fait qui deviennent parents. C'est une avancée quand même très importante. Mm-hmm. On est les rois et les reines des conjoints de fait au Canada. Hein?
Ouais. Je pense qu'on se marie moins. Les Québécois se marient moins que le reste
exactement.
Du Canada.
Exactement. Donc, prenons peut-être l'occasion, avant de s'y lancer, là, pour revoir les différents régimes matrimoniaux qui existent actuellement. Est-ce que tu peux les définir? Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, donc d'abord quand on se marie là, on fait soit le choix de se marier en séparation de biens, donc à chacun ses biens, chacun qui accumule ses affaires c'est à eux, ou en société d'acquêt qui est le régime matrimonial par défaut. Donc d'abord c'est quoi un acquêt? Ben c'est les biens qu'on acquiert durant le mariage qui appartiennent à ce moment-là également aux deux conjoints. Ça c'est un bien là, ça inclut les revenus et le salaire. Donc, si un conjoint gagne beaucoup, l'autre gagne moins, on est réputé là, tous les deux avoir conjointement gagné. Si on n'a pas fait de contrat de mariage, si on s'est marié là, par défaut, c'est la société d'acquêt qui s'applique. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi votre régime matrimonial, c'est probablement la société d'acquêt parce que vous n'avez probablement pas fait de choix. Au niveau de la séparation de biens, ben, comme j'ai mentionné, à chacun ses biens. Cependant, il y a aussi donc le concept de patrimoine familial auquel personne ne peut se soustraire.
Donc, qu'est-ce que le patrimoine familial?
Ouais. Donc, le patrimoine familial, donc c'est une loi qui est rentrée en vigueur là, il y a plusieurs années pour essayer de venir protéger les conjoints. À l'époque, c'était plus les conjointes, là, mais bon, la société a quand même évolué, là, ça protège les deux. Donc, si jamais un des conjoints fait moins de revenus que l'autre, donc s'assurer qu'il y a un partage équitable des biens qui sont de l'usage de la famille. Alors, quels sont ces biens inclus dans le patrimoine familial? La résidence principale, le chalet, donc là où les résidences secondaires, les voitures utilisées pour les besoins de la famille et les régimes de retraite, incluant les fonds de pension, la RRQ, les REER et ainsi de suite. Donc, ces biens-là qui sont acquis durant le mariage, donc après la date du mariage, sont partageables en cas de séparation ou en cas de rupture de l'union. Si je suis 100% propriétaire de ma maison avant le mariage, on se marie, on fait le choix de demeurer ensemble dans cette maison-là qui m'appartient à 100%. Elle vaut à ce moment-là 500 000. 20 ans plus tard, la maison vaut 1 million. Ben, le 500 000 de plus-value est partageable. Donc, la plus-value qui a été accumulée durant l'union, elle est partageable. Par contre, la valeur de la maison qui m'appartenait en propre avant le mariage continue de m'appartenir en propre.
Puis j'imagine, bien, je me rappelle, parce que tu le mentionnes beaucoup, que les gens ont eu une période de temps où ils ont dû faire le choix de régime matrimonial.
Ouais, donc le choix au moment du mariage, mais il y a certains plus vieux couple, là, je pense que c'est en 93-94, là, quand le patrimoine familial est entré en vigueur, les couples déjà mariés pouvaient faire le choix de renoncer au patrimoine familial. Donc, si on n'a rien fait, ben, on est sujet au patrimoine familial et on ne peut pas y renoncer avant la rupture. Donc, au moment où on se divorce, là, on peut dire, ouais, finalement, la portion qui me revient, j'y renonce.
Ouais.
Faut savoir aussi un concept là, que les gens ne le réalisent pas, là, mais dans le cas d'un couple marié, ben, immédiatement au moment du décès, on sait qu'on est réputé d'avoir vendu tous nos biens, mais on est aussi réputé avoir fait une rupture de l'union comme si on s'était divorcé immédiatement avant le mariage, avant le décès. Donc, le patrimoine familial s'applique avant d'appliquer les dispositions du testament au niveau du partage des biens. Donc, si je lègue, mettons, moi, tous nos biens à nos deux enfants, puis je te donne rien, Sarah, ben toi, tu vas réclamer ta portion du patrimoine familial d'abord, puis là, ce qui reste va aller en part égale aux enfants. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Ben, ils disent, ben non, dans mon testament, ça dit ça. Oui, mais tu as une rupture de l'union au moment du décès et le patrimoine familial doit être partagé avant. À ce moment-là, la conjointe, donc toi, tu pourrais dire, Sarah, non, ça va, je renonce à ma portion, puis effectivement, je laisse aux enfants la totalité. Mais ça, c'est une décision qui peut être prise uniquement au moment de la rupture.
C'est super triste pour moi de penser qu'on se divorce juste avant de décéder, mais je comprends le concept, mais je ne vais pas trop y penser. Martin, donc revenons à notre sujet principal. Ouais. Qu'est-ce que l'union parentale?
Donc, dans le passé, les conjoints de fait n'étaient pas reconnus au niveau des lois successorales, par exemple. Donc, oui, on est reconnu pour les régimes de retraite et tout ça, mais dans le cas d'absence de testament, par exemple, le conjoint de fait n'existait pas du tout. Dans le cas de rupture d'une union, le conjoint de fait n'était pas reconnu, il n'y avait pas de droit non plus. Donc, le législateur est venu un peu corriger ça. Donc, l'union parentale s'applique à partir du 30 juin si un enfant naît du couple après le 30 juin. Donc, si on est déjà ensemble, on a déjà des enfants, on n'est pas sujet à l'union parentale. Par contre, si, mettons, on a deux enfants d'abord, puis là, hop, un troisième naît, paf, l'union parentale s'applique.
Pensez-y.
Donc, si vous attendez ou vous prévoyez avoir des enfants. Donc, ça vient mettre le concept là, d'union parentale, vient créer un patrimoine d'union parentale qui ressemble un peu au patrimoine familial. Donc, c'est la maison principale, les résidences secondaires, les autos utilisées par la famille. Mais ça n'inclut pas les régimes de retraite. Donc ça, c'est la différence majeure là, entre les deux. Donc le conjoint de fait là, n'a pas droit au régime de retraite de l'autre conjoint. Et ça permet aussi de reconnaître en l'absence de testament que le conjoint de fait en situation d'union parentale, donc je vous rappelle qu'il faut qu'un enfant naisse après le 30 juin, sinon ça compte pas, ben le conjoint va être reconnu comme un conjoint au sens de la succession, même s'il y a une absence de testament et va hériter d'une portion de la succession. Généralement, c'est un tiers au conjoint, deux tiers aux enfants si on n'a pas de testament.
Mieux d'avoir un testament.
C'est mieux d'avoir un testament.
Toujours mieux
surtout
d'avoir
si
un testament.
Les enfants sont mineurs.
On pourrait tenir une pancarte puis aller dans la rue puis dire testament, mandat.
Ouais,
donc, et si l'enfant est né avant le 30 juin 2025?
Ben, à ce moment-là, il ne se passe rien officiellement. Ouais. Là, si on fait rien, il ne se passe rien. Par contre, les couples peuvent choisir d'adhérer à l'union parentale. Et donc, ça doit être fait par acte notarié ou un contrat écrit signé devant deux témoins. Là, un peu le concept de testament holographe, si on veut. Là. On pourrait décider là, de rédiger un contrat, si on n'est pas marié, puis dire, tu sais quoi, ben je pense que pour le bien de la famille, ce serait une bonne idée de faire ça. On rédige un contrat. Moi, je vous suggère de notarier ça, là, d'être bien conseillé, puis de faire ça comme il faut. C'est sûr que quand on fait ça un peu croche, ben en bout de ligne, c'est peut-être pas les bons résultats qu'on veut. Donc, je vous encourage là, à solliciter les conseils d'un professionnel et d'un notaire pour ça. Donc, le gouvernement, il a mis des outils en ligne là, pour vous guider dans la rédaction d'une convention comme celle-là. Mais quand même, là, on va prôner pour l'idée d'avoir de l'aide là, d'un notaire.
Exactement. Ben merci beaucoup, Martin. Donc, un court balado aujourd'hui, mais sur un sujet qui est quand même très important. Si vous êtes concerné par cette nouvelle loi, je vous encourage à en discuter avec un avocat ou notaire. Et bien sûr, nous sommes là pour vous accompagner à travers cette situation-là. Si vous avez des questions concernant notre balado aujourd'hui, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de cela avec vous. Appelez-nous, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.